voilà, c'est la troisième partie de Cappuccino 01 40 24 29 29. Là tout de suite, on est avec madame Éléonore Mongia. Bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien?
Très très bien, et vous?
Alors, c'est la première fois que vous êtes invitée à l'émission, mais vous connaissez un petit peu le milieu italien, puisque il y a quelques années, vous avez connu notamment notre ami Carmelo Mondello,
hein, voilà.
de qu'on oui, rappelle, oui. Qui est lui à Italoscopie, hein, tous les samedis matins de 10h à midi. Et pourquoi? Parce que en fait, il y a quelques années en arrière, 2014. Alors vous avez exposé,
voilà.
Photos de votre compagnon,
oui,
qui a disparu maintenant.
Oui.
Et qui s'appelait donc Serge Bazenko.
Bazenko.
Bazenko, avec deux S.
Deux S, oui.
Et voilà. Alors lui, c'était un Français.
Oui, Français. Alors, je sais par
pas
les si...
Non, non, alors, coupez les micros, parce que là, terminé, un Français, ça va pas. Non, je plaisante. Donc voilà, non, mais c'est ça
français,
qui est...
Français sur les papiers, mais dans le cœur, il était voilà. Pas trop français.
Mais non, mais c'est ça qui est russe. Génial dans cette émission aussi, justement, c'est que on est ouvert à tout le monde, et ceux qui aiment l'Italie, et ceux qui aiment, voilà, le monde.
Bah, moi, je suis
général,
originaire du Fribourg.
Eh bien, voilà, il n'y a pas de nationalité.
Ouais.
Ah, vous êtes originaire? Ah, je savais pas.
Ah, bah voilà.
Vous m'aviez pas dit, ça.
Vous m'avez pas demandé.
Et c'est pour ça que Pietro, il était tout content quand vous avez discuté avec lui, alors.
Exactement.
Voilà. Et votre mari, lui, était un passionné de Venise.
Alors, passionné, c'est difficile de dire ce mot-là, parce que quand on pense à passionné, on pense à quelque chose qui est, qu'on subit. Et alors que là, c'était vraiment un amour plutôt qu'une une passion.
Oui.
Et c'est ce que je racontais tout à l'heure. Quand il est arrivé à Venise pour la première fois, il avait 45 ans. Et il connaissait pas Venise. Et il pensait faire le tour de Venise en voiture, passer sur le pont des Soupirs en voiture, et ensuite aller manger un gâteau, parce qu'il adore les gâteaux.
Oui.
Et quand on est arrivé de nuit, puisqu'il aime la nuit...
C'était en 73, hein, je crois.
Oui. Ouais. Il s'est garé dans un endroit, genre terrain vague, qui était à côté de la Dogana à l'époque. Et ensuite, donc déjà, il était complètement déboussolé. Après, on a pris le bateau, et dans la nuit noire de Venise, de l'époque, puisqu'il y avait 3-4 herbert malheureux, là, qui brillaient au loin.
Pour remettre dans le contexte, en 73,
oui,
effectivement,
oui,
l'éclairage public était
voilà.
Limité.
Maintenant, les Vénitiens disent que c'est Las Vegas.
Ah oui, il y a des
lumières partout. Mais à l'époque, on n'y voyait rien. Et donc, tout était noir, l'eau était noire, et il avait peur tout le temps de couler. Et donc, moi, il m'a rien dit, sur le coup, il m'a dit ça après. Et puis, on est arrivé donc sur la rive, il a plongé dans les rues de Venise, et débouché sur la place Saint-Marc, qui était immense, à côté, ça lui a fait peur, il a vite refilé dans les... Ah oui, oui, il a vite refilé dans les petites rues, et il s'est finalement arrêté près d'un pont, qui était tout silencieux et tout tendre, et il a dit, Venise est une ville où on peut pleurer. Et à partir de là, il a eu envie de faire des photos. Il m'a dit, la prochaine fois, je vais apporter mon appareil.
Oui, parce qu'en fait, il n'avait pas une passion ou alors un amour de Venise comme ça. Enfin, quand il a été pour la première fois, vous avez été comme touriste, comme beaucoup de gens.
Ah, tout à fait, voilà. Oui.
Mais alors après, c'est là où il a développé un amour pour Venise et il s'est mis à faire des
photos.
Voilà,
oui, il a dit, je me sentais chez moi à Venise. Donc il était et puis c'est pour lui c'était une promenade malgré tout le travail et l'acharnement que ça suppose, je vais en parler un peu tout à l'heure peut-être, mais pour lui ça a toujours été une promenade tranquille et sereine, et il pouvait s'arrêter par exemple près d'un pont mettons, puis regarder l'eau comme ça avec les petits reflets pendant toute l'après-midi, à discuter de n'importe quoi pendant que le temps passait, et les photos venaient si elles venaient.
Voilà.
Si elles venaient pas, tant pis, elles sont venues, c'est très bien, mais c'était pas, le but n'était pas, je vais faire des photos à Venise. Le but, c'était, je vais être à Venise.
On va reparler de tout ça, puis de également, cette passion, enfin, cet amour de Venise, et puis aussi vous, hein, parce que finalement, vous étiez aussi, du coup, embarqué dans la gondole, hein, finalement, pendant des années.
J'ai fait la gestion, j'ai fait la partie technique, oui. Il faut bien que quelqu'un la fasse.
Et on expliquera pourquoi vous êtes là, parce que finalement, on l'a même pas dit encore. Bon, on lira après une pause musicale avec Paola Turci. Paola Turci, Nicolas Fisch, qui nous propose Fatti Bella per te Venezia, évidemment.
Naturalmente.
Voilà, vous êtes à l'écoute de Capuccine, et vous avez raison, avec Éléonore Mongia, qui nous parle d'une exposition, on l'a pas encore dit, mais c'est ça en fait le but, c'est parce qu'il y a une exposition photo justement sur Venise qui va avoir lieu dans quelques semaines, une exposition de Serge Bazenko. Alors, donc oui, tiens, on va donner tout de suite, tiens, comme ça on va pas oublier. Cette exposition, elle démarre le 29 novembre.
Oui.
Jusqu'au 4 décembre.
Non, jusqu'au 4 janvier.
4 janvier, pardon. Et en fait, on est un peu en avance, mais c'est grave, comme ça, on redonnera tous les dimanches.
Oui.
Toutes les coordonnées, pour, parler de cette exposition.
Une petite chose. D'une part, elle est à Versailles. Elle se trouve à la bibliothèque de l'université Interage, qui est juste à côté de la mairie de Versailles. Et d'autre part, il faut demander les horaires d'ouverture de la bibliothèque. Donc il y a le numéro de téléphone là, qui oui, est que je le donne.
Oui, ou... bien sûr, au contraire.
Alors, attendez. 01 30 97 83 89. Et ça, bon, enfin, en cherchant sur internet, on trouve la bibliothèque.
Façon, les horaires,
voilà,
ça doit être des horaires.
C'est les horaires
jour,
de. Hein, oui, oui,
heures,
bien sûr.
9h, 18h.
Oui, ça dépend, il y en a, faut voir. Oui, en grosso modo, c'est ça,
c'est
oui.
C'est un peu ça, avec le samedi aussi. Donc,
voilà. Et par contre, elle va fermer le 24 décembre jusqu'à la semaine qui va jusqu'au 1, 2, 3 janvier.
Voilà, et après, voilà. Elle
reprend jusqu'au 4.
Jusqu'au 4. Donc voilà, donc, c'est le 29 novembre, cette exposition sur Venise.
Et le vernissage est le 30.
Et le vernissage. Alors, on a parlé un petit peu de comment vous et votre compagnon vous êtes arrivés à Venise,
oui,
d'une manière un peu particulière, sans forcément donc aimer plus que ça Venise. Et puis alors, après, qu'est-ce qui s'est passé pour que boum, il y a un déclic, c'est un déclic photographique. Qu'est-ce qui s'est passé pour
Bah, je vous dis,
il aime cette ville puisque il a fait 7000 ans. Alors ça c'est.
Alors il a sur fait Venise. Sur Venise, on a fait largement 30 000 photos.
Oh.
En 20 ans, où on allait à Venise à peu près 3 fois par an pendant 3 semaines. Et donc, on a fait donc toutes ces photos-là, desquelles on a tiré après 2 CD-ROM de 1000 et quelques photos chacun, en couleur et en noir et blanc, et qu'on a scanné nous-mêmes, qu'on a retouché nous-mêmes.
Alors, il était plus porté sur le noir et blanc, non? Je crois que
non,
là,
non, là.
Et c'est des photos en noir et blanc, là.
Oui, là, ce sont des photos en noir et blanc, mais il en a fait autant, si c'est pas plus, en couleur. J'ai pas pris de photos couleur parce que c'est plus délicat, au point de vue des teintes, d'obtenir ce qu'on veut des gens. Mais les noirs et blancs ont quelque chose aussi de particulier qui...
Ça fige le temps,
hein, oui.
Ça fige le temps, le noir et blanc.
Alors, après tout. Pourquoi pas en noir et blanc? La prochaine sera peut-être en couleur.
Et il y avait des particularités parce qu'en fait, alors c'était toute une organisation, hein, pour faire ces photos parce que vous étiez justement son aide. Comment ça se passait?
Eh bien, il y avait des tas de trucs à quels il fallait penser. D'une part, les voyages, organiser le moment. En général, c'est des amis qui nous ont prêté des maisons, des bateaux, des moteurs, heureusement qu'ils étaient là.
Parce qu'on me rappelle qu'ils n'étaient pas professionnels.
Ah, pas du tout, non, il n'y avait rien à voir avec la photo. Et sans ça, qu'est-ce qu'il y avait? Moi, j'avais le sac à photo, où il y avait ses appareils, les objectifs. On a compté une fois, ça faisait 10 kilos. Ouais. Donc, il y a ça, il y avait le parapluie, parce que il pleuvait, c'est souvent à Venise. Et donc, il fallait protéger l'objectif avec le parapluie. Il fallait vérifier s'il n'y avait pas des gens qui passaient dans le lointain, enlever des gros papiers ou des choses comme ça qui étaient en vue.
Est-ce que vous allez dire quand c'était le carnaval ou des choses comme ça?
Non, jamais.
Ça n'intéressait pas.
Non. Ce qui l'intéressait, c'était Venise elle-même, et c'est pourquoi il n'y a pas de personnages dans ces photos non plus. Il voulait photographier la ville. Donc la ville, telle qu'elle pouvait être, on peut dire d'une façon un peu éternelle, quoi. Il a dit d'ailleurs, j'ai essayé de photographier l'âme de Venise. Donc les choses, les boutiques, les restaurants, les hôtels, les fêtes, ça l'intéressait pas. Les églises, ça l'intéressait pas.
Ah, les églises non plus?
Non.
Pourtant, il y en a un
rentrer
paquet,
dans les églises, les musées, ça l'intéressait pas non plus. Il voulait la ville. Et la ville avait quelque chose pour lui d'extraordinaire, d'humain. de profond, et c'est ça qu'il a fait. On peut pas tout faire n'importe comment dans la vie. Faut bien choisir. Si on choisit une chose, on choisit pas l'autre.
Alors pour les spécialistes, peut-être ça peut être les intéresser de savoir quel appareil photographique vous utilisez.
Oui, il a utilisé des Contax 1 Zeiss de 1930.
Raphaël, il doit connaître. Raphaël, les batailles qu'on salue, qui va être.
Non, moi, je suis trop jeune pour ça.
Je plaisante. Mais déjà de son temps, c'était des appareils anciens qui n'étaient pas utilisés parce que personne savait les réparer. Et donc, il a acheté ça d'une bouchée de pain à la foire à la photo, aux différentes foires à la photo, et on les a restaurés nous-mêmes. C'est-à-dire, comme il y avait des études scientifiques derrière lui, bah, il pouvait connaître un peu les principes de la mécanique et tout. Et donc, on a passé 5 ans à revoir de fond en comble tous les appareils. Mais rien que pour nettoyer un appareil.
Et vous prenez des appareils anciens comme
alors,
ça?
Oui. Alors, et c'est pas comme ça par plaisir, mais c'est parce qu'ils avaient des objectifs extraordinaires. Mmh. Qui étaient tous faits à la main. Et qui avaient un rendu, chacun avait une particularité. Il y en avait un qui était doux, l'autre il était éclatant, l'autre il était un beau, un autre il faisait un effet de dessin ou je sais pas. Et selon l'atmosphère, le temps qu'il faisait, l'humeur, il choisissait l'un ou l'autre en fonction. Donc c'est pour ça qu'il a utilisé ces appareils. C'est pas du tout parce qu'il aime la mécanique ni qu'il aime la photo. Non, c'est parce que ça correspondait à sa manière de voir.
Alors, on va faire une pause musicale encore avec quelqu'un qui a une voix qui pourrait très bien se positionner à Venise, parce que c'est Antonella Ruggiero. Ça fait longtemps qu'on l'a pas écouté. Vous allez voir, cette chanson, c'est Il Mondo, vous connaissez
sûrement. Ah oui, oui.
Et ça irait très bien pour Venise.
Belle chanson. Je suis contente.
Hein? Vous êtes contente?
Merci beaucoup.
C'est bien. Vous êtes contente? C'est normal, parce qu'en fait, quelque part, on en revient à cette exposition qui va avoir lieu du 29 novembre au 4 janvier à la bibliothèque de l'université Interage à Versailles. Vous vous sentez un peu dépositaire de toutes ces photos qu'il a fait à votre compagnon?
Pas qu'un peu. Ouais. Je suis dépositaire, il m'a chargé de m'en occuper.
C'est pas un peu lourd, parce que il n'a pas fait que des photos sur Venise?
Non, il en a fait sur la campagne française, plein aussi, encore plus d'ailleurs. Il est allé dans plein d'endroits en France qui sont restés, enfin qui étaient à l'époque traditionnels et qui étaient ceux des paysans et qui n'existent pareil, qui n'existent plus aujourd'hui. Et il est allé dans le Frioul puisque je suis de là-bas et que je l'ai emmené là-bas, donc il a fait des photos là-bas aussi. Et il a écrit plein de livres.
Un livre ici, notamment.
25.
Il pleut. Venise en 73.
Qui est un roman. Alors autant dans les photos il n'y a pas de personnages, autant ici il y a des personnages, c'est-à-dire que ce sont les Vénitiens c'est un roman, c'est des personnages de roman, mais ce sont des Vénitiens que nous avons connus à ce moment-là et qui sentaient venir la fin de leur monde et qui donc ressentaient avec mélancolie ils savaient pas trop ce qu'ils allaient devenir, s'ils allaient devenir une ville musée, s'ils allaient rester vivants ou pas. Et c'est ça qu'on sent dans le roman, où il est question de la vie de tous les jours, des sentiments des Vénitiens, de leur angoisse devant, par exemple, des choses tout à fait simples de la vie, comme le fait que les loyers ont augmenté 10 fois comme ça en quelques années. Donc, ce qui explique l'exode des Vénitiens. Et donc, ces jeunes qui sont là, puisque les héros sont des jeunes gens, parle de tout ce qu'il y a et on voit se refléter une vie que finalement peu de gens connaissent, puisqu'on s'occupe pas de la vie des Vénitiens de tous les jours. On s'occupe de la vie du touriste, de lui présenter
les grands bateaux qui viennent,
etc. Mais la vie de tous les jours des gens qui sont là et qui ont connu Venise depuis des générations, on s'en occupe pas.
Alors c'est justement pour ça qu'il faut absolument aller voir cette exposition, parce que en plus lui il a pris des photos de 73 et comme vous dites c'était un autre monde.
Oui.
73, Venise n'était pas du tout le Venise qu'on connaît.
Non.
Même au niveau des boutiques, au niveau, il n'y avait pas toutes ces boutiques de gris-gris comme il y a maintenant. Il y avait vraiment des petites trattories, il y avait vraiment une vie qui était présente et qui est encore maintenant, mais de manière différente. Et donc c'est pour ça que c'est un mémoire finalement ce qu'il a fait.
Ah oui, on pensait pas du tout à l'époque que ça deviendrait comme ça, mais ce sont des œuvres historiques parce que cette Venise-là, comme vous dites, n'existe plus. Et alors, si on veut connaître ce qui a été Venise autrefois, On peut regarder les photos et lire le livre dans le sens que il n'y avait pas en fait d'interruption entre la Venise du passé et celle qu'on a connue. Grosso modo, il y avait une suite, il y avait une homogénéité qui était perdue depuis.
Mais je pense qu'on va y revenir parce que moi j'ai un ami qui était à Rome là récemment aussi et il m'a dit c'est affolant quoi parce que par exemple Piazza di Trevi t'avais 400 personnes quoi avec tous les groupes et donc tu vois même plus la place, c'est complètement envahi. Donc je pense que quelque part il va y avoir on est arrivé à un pic et forcément il va falloir faire quelque chose dans toutes ces cités merveilleuses que sont Florence, Rome et Venise parce que sinon on pourra plus les voir quoi, ça sera plus du tout intéressant d'aller les voir. Donc je pense qu'il faut que les politiciens se mettent autour d'une table et puis même les gens du tourisme pour essayer de générer ce flux parce que ça.
Oui, mais ce qui a fait la vie de Venise, c'était les Vénitiens. Et les Vénitiens n'y sont plus maintenant.
Il n'y a plus que 50 000 habitants, je crois, à Venise.
Oui, il y en avait 200 000 à la grande époque.
Et on est moins de
50 000. Et en plus...
Justement, de limiter le quota de touristes par jour à Venise.
Les quotas à Venise. Bon, alors maintenant, en plus, il y a ces grands bateaux qui arrivent. Là, c'est une catastrophe parce que là, ça abîme en plus tous les bâtiments. Et c'est incroyable, quoi. D'être aussi bête de détruire un truc aussi, une ville aussi sympa.
Oui. Ça, c'est pareil. Maintenant, normalement, les gros paquebots, ils auront plus le droit de passer justement sur la. A priori, ça a été décidé parce que c'est vrai que c'est scandaleux, quoi, de voir ces bateaux qui vous passent entre la. Entre la lagune et San Giorgio, là, c'est immense pour rien, quoi. Ça dénature complètement le paysage. Et puis en plus, ça envoie des tonnes d'eau sur le truc qui abîme encore plus la ville, quoi. C'est scandaleux, quoi.
Ah oui.
Alors, donc, cette exposition, c'est le 29 novembre. Il y aura aussi un petit truc qu'on pourra
un vernissage
gratos et tout.
Oui, c'est le lendemain, le jeudi 30 à 6h. Voilà. Vous êtes, tout le monde est cordialement
tout
invité.
Le monde à Versailles.
Oui.
C'est assez facile pour aller à Versailles
Oui, on prend l'autoroute et on sort à la première sortie.
On l'a pu prendre le train à Montparnasse.
Ou sinon, le train Saint-Lazare arrive à rive droite ou le train. Sinon, oui, on peut arriver à rive gauche, c'est peut-être mieux. À rive gauche, la mairie, elle est à 5 minutes à pied.
Alors, j'espère qu'il y aura d'autres expositions pour que.
Ah ben, j'espère aussi.
On reparle de ça. Juste, il nous reste quoi, 2 minutes. Parlez-nous juste un peu de votre parcours parce qu'il est assez intéressant. On en a parlé tout à l'heure en antenne. Vous êtes du Frioul.
Ah oui, je suis du Frioul, ouais. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur...
Parce que Montgia, je me disais, mais c'est bien français, ça.
Ah non,
bien...
non, non. Non, c'est un nom typiquement frioulant, ouais. Pour la bonne raison que c'est un nom qui est des montagnes qui s'appellent, où il y a un village qui s'appelle Tramonti, et ça serait une abréviation de Tramontiat, qui veut dire entre les montagnes.
Et vous habitez, voilà. Vous étiez de là-bas, votre papa est venu lui,
la famille anciennement oui, était de là-bas. Ensuite, mon père et ma mère sont nés à Sequals, qui est le pays de Carnera.
Mmh. Primo et Carnera, on
voilà,
se rappelle. Hein.
Le grand boxeur catcheur là. Ouais. Et ensuite, mon père donc est parti du Frioul. Il avait 13 ans en tant que mosaïste carreleur et il a travaillé en France. Et ensuite, il est venu chercher ma mère. Et ensuite, je suis né.
Oui, mais alors il a eu quand même un choix un peu
oui.
cornélien parce
alors,
que entre votre maman et,
oui.
et le foot.
Mon père était très très doué physiquement et il était très doué pour le foot en particulier. Et un jour, le sélectionneur de l'équipe de foot de l'Inter de Milan l'a vu et a demandé qu'il vienne jouer dans l'équipe de foot de l'Inter.
Si.
Alors, ma mère lui a dit, écoute, tu choisis, c'est le ballon ou c'est moi. Parce que je veux pas d'un mari qui serait tout le temps loin de la famille. Et alors, mon père a choisi ma mère.
Bah, il a bien fait. Regardez comme vous êtes jolie.
Un vrai merci
cœur.
Beaucoup.
Un vrai cœur, Éléonore. Bon, merci d'être venue. On rappelle peut-être le téléphone pour ceux qui sont intéressés au niveau des horaires pour aller voir cette exposition.
Oui, c'est le 01 30 97 83 89.
Voilà, l'exposition survenue. Oui,
allez. Et en sans quoi, il y a le site
ah,
de
oui.
Serge Bassenko.
Bien sûr, pour aller voir ces super photos.
Voilà, où on peut voir toutes ses œuvres. C'est lupusae.com. Alors c'est lupusae.com. Alors, vous restez... Sinon, on tape Serge Bassenko sur Google et on trouve.
Ouais. Ouais. Vous reveniez un peu plus tranquillement pour qu'on puisse parler un petit
avec
peu
plaisir.
De tout son œuvre. Ça serait très sympa. Bah, merci à vous deux.
Bah, merci à toi.
Merci à vous.
Matoy et Léonore Mongia, ça passait vite, hein, mais c'est important de parler de ces photos. J'ai hâte aussi de voir ces photos de Venise. Je vais aller sur le site aussi. Et puis, on viendra à Versailles.
Avec plaisir.
Merci à vous deux. Merci.
Au revoir.